Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, la rénovation de la Samaritaine, symbole d'un optimisme français devenu trop rare. Le grand magasin, la Samaritaine, a rouvert ses portes après une rénovation qui a duré près de 15 ans. Alors ce qui au premier abord paraît banal, un grand magasin rénové, a en fait une portée symbolique très importante. Tandis que certains dénoncent cette célébration de la consommation et du luxe comme une provocation en temps de crise, j'y vois pour ma part un formidable signe d'optimisme dont notre pays a tant besoin. Alors le mail est lapidaire, ce correspondant me fait parvenir un article sur la rénovation de la Samaritaine et il commente d'un air dépité 20 000 mètres carrés consacrés à la mode et aux cosmétiques, trois petits points. En ces temps de crise et de Covid, mon premier réflexe est de me dire qu'effectivement, cette frivolité semble malvenue, d'autant que je regardais l'émission de France 2, Envoyé spécial, qui portait récemment sur les retraités pauvres. Ainsi, Monique, dont la retraite mensuelle est de 900 euros et qui, dès le 15 de chaque mois, surveille chaque euro et vit dans la terreur que sa vieille voiture, 19 ans, tombe en panne ou soit recalée au contrôle technique. Ou encore ce couple d'agriculteurs qui ne sort plus car ils ne peuvent plus rien se payer au-delà du strict nécessaire. La crise que nous vivons depuis le début de l'épidémie a aggravé la situation, bien sûr, et placé de nombreux Français dans une situation économique périlleuse. Comment, à cette aune-là, l'inauguration en grande pompe de la Samaritaine, effectivement temple de la consommation et du luxe, ne pourrait-elle pas effectivement être perçue comme une provocation ? En 1870, le négociant Ernest Cognac ouvre avec sa femme Marie-Louise G. une boutique à l'emplacement de l'actuelle Samaritaine. Ils s'étendent petit à petit dans les boutiques mitoyennes et décident un jour de voir grand. En 1910 est inauguré un bâtiment Art Nouveau, à la pointe de son époque sur les plans architecturaux et techniques, aux ambitieux volumes dotés d'une structure métallique et d'ornementation novatrice. À ce bâtiment vient s'ajouter en 1928, un édifice Art déco conçu par le grand architecte français Henri Sauvage. Le bâtiment fait d'ailleurs partie d'un îlot inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On peut penser que la Samaritaine a servi de modèle à Zola pour son fameux « Au bonheur des dames » qui évoque la révolution du commerce qui a lieu dans le Paris de la fin du XIXe siècle, en racontant la naissance et la croissance fulgurante d'un grand magasin. La Samaritaine devient l'un des magasins phares de Paris. Fermé en 2005 pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il perd de l'argent et est devenu désuet, le bâtiment aura nécessité 15 ans de travaux, 750 millions d'euros de budget pour sa rénovation. Il offre une superficie de 20 000 m² où travaillent 1 700 employés et où 600 marques sont représentées. La Samaritaine retrouve sa verrière monumentale, 700 m², de structure Eiffel, élément d'architecture spectaculaire datant de 1907, signé par l'architecte Franz Jourdain. Ses décorations Art Nouveau en lave émaillée, son escalier monumental, mais également la majestueuse peinture des pans de Francis Jourdain, de 115 mètres de long. Les ferronneries des bâtiments Sauvage et Jourdain-Verrières ont été restaurées par l'atelier d'Hautefort en Dordogne, les peintures Art Nouveau par l'entreprise Socra de Périgueux, les 675 mètres de plaques de lave émaillées également par Socra et l'émailleuse Maria d'Acosta. Enfin, les planchers de verre, signature historique du bâtiment, ont été fabriqués par le verrier Emmanuel Barrois à Brioude en Auvergne. Le chantier a mobilisé jusqu'à 800 personnes par jour. Au bonheur des dames est un roman important à de nombreux titres qui devait être une lecture imposée dans toute école de commerce, mais le plus important est le sens que Zola voulait lui donner. En racontant la naissance du commerce moderne, il avait le désir d'en faire un roman optimiste, un poème de l'activité moderne, je cite, célébrant le triomphe d'un siècle d'action et de conquête, d'efforts dans tous les sens. Et c'est bien cette volonté d'action et de conquête qui marquera profondément le siècle, par son progrès économique et social fulgurant, dont la Samaritaine est le symbole. L'époque est au triomphe du génie français qui mènera le monde des arts, des sciences, de l'industrie et du commerce, jusqu'à la catastrophe de 1914. L'inauguration par le président de la République d'un temple dédié à la consommation et au luxe n'a évidemment pas laissé tout le monde indifférent. Clémentine Autain, députée LFI, se fendait ainsi d'un tweet rageur où elle écrivait, je cite, « Éloge du luxe par le président Macron sous les applaudissements du grand groupe LVMH, ou comment diriger un pays qui traverse un immense carnage social en restant dans sa bulle, fin de citation. Une telle réaction n'est guère surprenante, mais elle est regrettable. Elle procède cependant d'une double erreur, morale et économique. Alors, l'erreur est morale parce que la condamnation des futilités du luxe et du maquillage a été une des constantes de tous les professeurs de vertu depuis l'aube de l'humanité. Il n'est pas un dieu, terrestre ou céleste, qui n'ait été offensé par un maquillage ou un fond de teint. Et pourtant, cette futilité est probablement une des caractéristiques humaines les plus profondes. Dans le envoyé spécial évoqué plus haut, Monique d'ailleurs expliquait combien sa petite séance de maquillage avant de sortir était importante pour elle. Elle l'aidait à se sentir bien pour affronter le monde extérieur. Contrairement à ce que suggère Maslow avec sa malheureuse pyramide, ce que nous jugeons le plus futile est parfois le plus fondamental. Se priver d'un steak pour pouvoir se maquiller afin de maintenir une estime de soi et une dignité quand tout le reste a foutu le camp. Qui peut balayer ça comme une futilité ? L'erreur ensuite est économique. En effet, la Samaritaine est propriété du groupe LVMH, le groupe de luxe français que les professeurs de vertu décroissante adorent détester. Il est rare que la France compte un leader mondial dans une industrie, et LVMH fait partie de ces exceptions. Son patron, Bernard Arnault, qu'on adore lui aussi détester, a transformé un groupe hétéroclite médiocre dans les années 80 en un mastodonte géré comme une horloge suisse, réalisant 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires, gérant 5000 boutiques dans le monde et employant plus de 160 000 personnes. Il est le fleuron du secteur français du luxe, qui lui-même compte près d'un million d'emplois directs et indirects, de la maroquinerie au parfum, au vin et au spiritueux. S'il est indéniable que nombre de nos concitoyens éprouvent des difficultés économiques importantes et qu'il est grand temps que les politiques se saisissent de la question, leur sort ne sera pas amélioré le moins du monde en limitant le luxe et la consommation en général. S'il y avait plus de LVMH en France, c'est-à-dire d'entreprises ultra-performantes à la pointe de leur domaine, il y aurait moins de pauvres comme Monique. Parce qu'elle mobilise les domaines d'excellence française, parce qu'elle traduit un optimisme tourné vers l'action et la conquête qu'avait célébré Zola en son temps, parce qu'elle est l'œuvre d'un capitaine d'industrie dont la réussite extraordinaire bénéficie à toute la société, parce que, précisément, elle prend place à un moment de crise sanitaire et économique où il faut sans tarder se mettre à reconstruire, alors oui, cette rénovation à grands frais d'un temple de la consommation et du luxe est une bonne nouvelle. Vive la Samaritaine ! Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzahn.com. À bientôt !